Bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, nous faisons le point sur l'actualité scientifique. C'est l'émission Biotine. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis heureux de vous retrouver sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Internet, avec la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts des émissions. Bien évidemment, profitons-en. On va faire un petit peu le point sur l'actualité aujourd'hui de ce samedi 23 avril. Au niveau de l'éphéméride, le 23 avril 1827, le mathématicien et physicien irlandais Rowan Hamilton présente sa théorie des systèmes de rayons en 1827. Beaucoup plus proche de nous, il y a le sursaut gamma qui est découvert par un satellite et qui en fait l'événement astronomique identifié le plus éloigné de la Terre jamais observé par des êtres humains. C'était le 23 avril 2009. Naissance, oh là là, il y a longtemps, le 23 avril 1628, naissance de Johan Hude, homme politique et mathématicien néerlandais qui va travailler sur la théorie des équations. Ah oui, merci monsieur. Dans le domaine de la physique, il va travailler sur l'ouvrage des télescopes et la maintenance des canaux, qui était un problème qui était d'actualité en Hollande, hein, parce que c'est en 1657 qu'il parvient à bloquer l'armée française en inondant de façon audacieuse une partie du territoire. C'était Johan Hude. Décès le 23 avril 1931 de Jean-Victor Augagneur, médecin et homme politique français. Il était notamment maire de Lyon et donc il est décédé le 23 avril 1931. Pas grand-chose au niveau de l'éphéméride, finalement. Pas d'événement bien marquant. Au niveau de l'actualité, on peut se poser la question des GPS, hein, parce que lorsqu'on saisit un trajet sur un GPS, on a souvent le choix entre soit le choix du trajet le plus court ou alors le plus rapide. Mais la véritable question, ce serait peut-être de savoir quel est le trajet le plus sûr. Eh bien, c'est la question que se sont posées des chercheurs de l'Université de Texas. Et pour cela, ils ont comparé les itinéraires les plus sûrs et les plus courts entre 5 régions très denses du Texas, et cela inclut 29 000 routes différentes, et ils ont constaté que prendre un itinéraire avec une réduction de 8% du temps de trajet pourrait augmenter le risque accidentel de 23%. En clair, prendre un trajet plus court ne serait pas nécessairement le plus sûr. Comme les systèmes de guidage visent à trouver le chemin le plus court entre un point de départ et un point d'arrivée, ils peuvent conduire les automobiles à prendre des itinéraires qui peuvent minimiser le temps de trajet, mais qui en même temps comportent un grand risque d'accident. C'est ce qu'explique Dominique Lord, professeur au département de génie civil et environnemental de cette université du Texas. Et donc pour cette étude, les chercheurs ont recueilli et combiné les caractéristiques de la route et de la circulation, y compris leur conception géométrique, le nombre, la largeur des voies, l'éclairage, la circulation quotidienne moyenne, les conditions météorologiques et les données historiques sur les accidents. Et tout cela pour essayer d'analyser et développer des modèles statistiques pour essayer de prédire le risque d'être impliqué dans des accidents. Et donc cette étude a été publiée dans la revue de transport qui s'appelle Transportation Research. Et l'étude a ainsi révélé des incohérences dans les itinéraires les plus courts et les plus sûrs. Alors par beau temps, prendre l'itinéraire le plus court au lieu du plus sûr entre Dallas et Bryan College Station, ça va réduire le temps de trajet de 8%, mais la probabilité d'un accident augmente de 20%. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Et l'analyse suggère que prendre la route la plus longue entre Austin et Houston, ok, ça augmente le temps, mais ça entraîne une diminution de la probabilité quotidienne d'accident. Alors globalement, les routes qui présentent un risque plus élevé d'accident comprennent de mauvaises conceptions géométriques, des problèmes d'évacuation de l'eau, un manque d'éclairage, un risque aussi plus élevé de collision avec des animaux également. Et en conséquence, ces experts proposent une nouvelle architecture de système pour trouver l'itinéraire le plus sûr, en utilisant bien sûr des systèmes de navigation et en intégrant un algorithme qui va prendre en compte évidemment la circulation en cours, mais l'historique de la conception de la chaussée et des éventuels accidents qui ont eu lieu sur cette route. Et donc cette étude a révélé le potentiel des applications de la navigation routière couramment utilisées pour orienter les utilisateurs vers justement le fait de prendre une route qui comporte un risque plus élevé d'accident, ce qui implique la nécessité de prendre en compte la sécurité dans la recherche d'itinéraires, bien évidemment. Alors, dans cette nouvelle architecture du système, pour essayer de trouver l'itinéraire le plus sûr, les chercheurs ont déclaré qu'après avoir reçu la destination et l'heure du voyage, et bien l'algorithme identifierait les itinéraires en utilisant les données du réseau routier, les accidents possibles y compris les fermetures de routes ou alors les voies également, par exemple en raison d'inondations ou d'accidents. Et donc le système tiendrait également compte des caractéristiques routières et des données historiques sur les accidents, des renseignements sur la circulation, sur les conditions météo actuelles également. Tout ça est pris en compte et l'itinéraire présentant le risque cumulé le plus faible serait alors suggéré comme l'itinéraire le plus sûr, bien évidemment. Et donc, du coup, la navigation qui est basée sur la sécurité, plutôt que sur un temps de trajet, eh bien, ça peut permettre de prévenir les accidents et de promouvoir la sécurité globale sur le réseau routier et éventuellement sauver des vies. C'est ce qu'explique l'auteur principal de cette étude. Donc voilà, est-ce que le trajet le plus court est le plus sûr? Pas nécessairement, mais on est en train de développer des solutions de GPS qui pourraient peut-être prendre en considération l'ensemble des paramètres pour nous trouver les meilleures solutions. Ah, ça serait très bien. Vous êtes peut-être dans votre voiture, faites attention, mais vous écoutez Graphite et c'est très bien. Hit Lightning, c'était Bambara sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h pour sa rediffusion, l'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur Graphite. Et on fait un petit peu le point sur l'actualité scientifique et on ne parle pas souvent des ovnis. Eh bien, parlons-en parce que outre-Atlantique, eh bien, les ovnis, les objets volants non identifiés font de nouveau parler d'eux. Il y a une pétition qui a été lancée en février et qui interpelle plusieurs sénateurs américains, dont l'ancien candidat à la présidence Marco Rubio, afin de dévoiler au grand public des documents pouvant attester de l'observation d'OVNI. La demande s'adresse particulièrement au programme gouvernemental de surveillance de tels phénomènes. L'organisme avait notamment publié un rapport sur des vidéos rendues publiques en 2021 concernant le survol d'un navire de guerre aux États-Unis par des ovnis dont l'authenticité avait été validée par le Pentagone. Alors, l'authenticité avait été validée de la vidéo. Et l'instigateur de cette pétition s'appelle Adam Goldsack. Apparemment, ça serait lui, il serait d'origine britannique, mais cette requête s'ancre dans la tradition la plus pure d'observation et de recensement des phénomènes aériens non identifiés aux États-Unis. Au cours du XXe siècle, il y a de nombreuses histoires, de nombreuses légendes urbaines, bien évidemment, qui sont ainsi devenues une part de la culture américaine dès la seconde moitié des années 40, avec notamment l'affaire Roswell en 1947, l'observation de Kenneth Arnold d'une soucoupe volante la même année, ou encore l'enlèvement, entre guillemets, de Betty et Bernie Hill en 1961. Et avec l'arrivée d'Internet, eh bien, les récits d'observation d'OVNI se sont populaires, souvent accompagné de vidéos dans le courant des années 2000. Alors sur YouTube, on dénombre ainsi une quantité incalculable de vidéos plus ou moins bien truquées qui ont alimenté des débats passionnés dans les sections commentaires de la plateforme. Mais certains récits et certains documents se sont parés d'une espèce d'aura de crédibilité, tant et si bien que le sujet des ovnis a fini par déborder sur le programme des candidats à la présidence des États-Unis en 2016. Hillary Clinton, à l'époque, déclarait sur le plateau de Jimmy Kimmel être, je cite, une enthousiaste des ovnis et vouloir ouvrir un bureau d'études dédié à ces phénomènes, à l'instar de la série télévisée X-Files. Et durant son mandat, Donald Trump entretenait aussi le mystère autour d'objets volants non identifiés et il déclarait en 2020 vouloir déclassifier le dossier concernant l'incident de Roswell. Alors, en 2020, il y a trois vidéos filmées par l'armée américaine qui sont dévoilées au grand public et elles provoquent l'émoi sur les réseaux sociaux parce qu'on y découvre le vol d'appareils ayant des formes inhabituelles, avec les commentaires indécis et surpris des pilotes se retrouvant en face de ces phénomènes. Il y a de nombreux politiciens qui craignaient alors le survol de deux navires de guerre par des appareils espions d'un genre nouveau. Et il y a un rapport publié l'année dernière qui validait la véracité des vidéos avec l'appui du Pentagone et de l'armée américaine. En juin, l'organisme de surveillance déclarait qu'entre 2004 et 2021, près de 143 phénomènes aériens observés restaient à ce jour non identifiés. 143 phénomènes en une vingtaine d'années. Adam Goldsack lançait alors sa pétition au début donc du mois de février de cette année, appelant à ce que, je cite, les civils puissent enquêter, arguant d'un aspect scientifique à cette démarche participative. Alors il y a quand même des signatures, mais pas beaucoup pour l'instant. Vous pouvez regarder ça, c'est sur le site change.org. Mais il y a un silence radio pour l'instant au niveau des autorités qui n'ont pas réagi aux demandes peut-être de cette pétition. Mais il n'empêche, ça revient un petit peu sur le devant de la scène et du coup, on va un petit peu voir ce que cela va donner par la suite, cette pétition. Est-ce qu'on aura une déclassification de certains documents? On n'en sait rien. Allez savoir, c'est toujours intéressant de toute façon de suivre ces enquêtes de façon un peu, je sais pas, c'est toujours une part de mystère, bien évidemment, c'est ça qui est aussi intéressant. Autre chose, il y a une grande boîte métallique couverte de panneaux solaires doublés d'une couche d'hydrogel. C'est à quoi ressemble le système qui a été inventé par des chercheurs de l'Université des sciences et des technologies du roi Abdallah. C'est en Arabie Saoudite. Et ce système, l'idée, c'est de faire pousser des épinards en plein désert tout en produisant de l'électricité. C'est quand même assez fascinant et assez troublant, bien évidemment. Alors, comment ça marche? Eh bien, le rôle de la couche d'hydrogel, c'est d'abord d'absorber la vapeur d'eau de l'air ambiant, puis, chauffé par la chaleur résiduelle des panneaux solaires, eh bien, cet hydrogel libère la vapeur vers la boîte métallique située en dessous et destinée à la condenser en eau. Et le tout pendant que l'hydrogel permet aussi d'augmenter de 9% l'efficacité des panneaux solaires à produire l'électricité en contrôlant leur température. Lors d'un test qui a été mené pendant 2 semaines au mois de juin de l'année dernière, un mois de juin qui était particulièrement chaud, Les chercheurs ont irrigué 60 graines d'épinards aquatiques avec la seule eau qui était recueillie grâce à un prototype de leur système de la taille d'un bureau. Et au total, environ 2 litres ont été recueillis, c'est quand même pas mal. Et ce système a généré aussi un petit peu d'électricité, 1500 watts d'électricité, et 57 des graines ont poussé jusqu'à 18 cm. C'est quand même assez intéressant. Et pour passer du stade un petit peu de prototype à celui d'un système réellement exploitable sur le terrain, eh bien les chercheurs devront développer un hydrogel capable d'absorber plus d'eau, évidemment présent dans l'air. Mais il semble être sur la bonne voie pour proposer un système qui assurerait un approvisionnement à la fois en électricité et en eau, notamment à des populations qui vivent dans des zones rurales ou dans des climats plutôt arides ou semi-arides, bien évidemment. Mais voilà, les scientifiques arrivent à faire pousser des épinards dans le désert grâce à des panneaux solaires. Ça peut être intéressant et ça peut être une solution d'avenir, bien évidemment. Strange Infection, c'était Moses Boyd sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et on va répondre à cette question. Combien de pas faut-il faire par jour? La pratique, bien sûr, d'une activité sportive améliore, on le sait, notre état de santé physique en diminuant par exemple le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de diabète et de nombreux cancers. Et celle-ci favorise aussi une bonne santé mentale de manière globale. Se bouger améliore notre espérance de vie. Le nombre de pas par jour est un bon reflet de l'activité physique d'une personne. Et avec les téléphones portables actuels, eh bien, c'est une mesure très facile à mettre en œuvre. Et si la devise 10 000 pas par jour a l'avantage d'être simple à retenir, il n'est pas toujours aisé de l'appliquer chaque jour. Par ailleurs, il y a peu d'études scientifiques de bonne qualité qui ont été menées sur le sujet. Et il y a un article qui a été récemment publié dans le prestigieux Lancet qui s'est penché sur la question. Et les auteurs, ils ont réalisé ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse de différentes recherches qui ont déjà été publiées. Et là, ils ont travaillé sur 15 publications et des publications qui travaillaient sur le lien entre le nombre de pas par jour et la mortalité, toute cause confondu chez des individus de plus de 18 ans. Et donc cette méta-analyse, ça permet un petit peu de synthétiser les données issues d'études un peu indépendantes et d'en tirer un petit peu des conclusions d'une façon un petit peu plus générale. Et le travail a permis de rassembler à peu près 48 000 personnes qui ont participé à ces différentes études. Parmi ces personnes, 3000 sont décédées durant la durée de l'étude et la période de suivi était plus de 7 années. Donc on est quand même sur des échelles à la fois de temps et de nombre de personnes assez intéressantes. Les participants ont été rassemblés en 4 groupes qui comprenaient à peu près chacun un quart des participants. Et donc, on essayait d'avoir un nombre de pas médian par jour, par groupe. Donc, il y avait un groupe qui marchait environ 3500 pas par jour, d'autres 5500, d'autres 7800, d'autres presque 11000. Donc voilà, on avait regroupé les grands marcheurs ensemble. Et donc, du coup, l'analyse statistique des résultats a montré que le nombre de pas nécessaires pour obtenir un effet protecteur sur la santé et l'espérance de vie était différent qu'on ait moins ou plus de 60 ans. Donc déjà, on avait pu identifier cette chose-là. L'idéal, ça serait de marcher entre 6000 et 8000 pas par jour pour les plus de 60 ans et entre 8000 et 10000 pas par jour pour ceux qui ont moins de 60 ans. C'est un petit peu l'idéal des résultats de cette étude. Plus intéressant encore, c'est l'effet et un petit peu, entre guillemets, dose dépendant. Ça veut dire que plus on marche, plus on accroît son espérance de vie, si on schématise un petit peu cette étude. En revanche, pour les plus de 60 ans, par exemple, à partir de 8000 pas par jour, il n'y a pas de gain supplémentaire en matière d'espérance de vie. Au moment où vous arrivez à un palier, et ça ne vous apportera pas plus. Par ailleurs, la vitesse de marche n'a aucun impact. Donc c'est encourageant parce que l'essentiel, c'est de s'activer, mais chacun a son rythme. Donc on parle bien d'une marche, mais d'une marche personnel, pas nécessairement d'une marche rapide en fait. Donc voilà, vous avez moins de 60 ans, c'est entre 8000 et 10000, vous avez plus de 60 ans, c'est entre 6000 et 8000 pas par jour. Donc maintenant avec les téléphones portables, on a un petit peu toutes ces indications santé qui nous permettent d'avoir le nombre de pas que l'on fait par jour. Ça vous permet de voir donc si vous êtes dans une bonne moyenne. Toujours au niveau santé, on va parler de la lumière qui est bien sûr un régulateur important de notre rythme circadien. Et cette lumière contrôle la sécrétion de nombreuses hormones qui vont avoir un impact sur notre métabolisme. Selon une étude qui a été publiée récemment dans le journal PNAS, une exposition à la lumière durant la phase de sommeil aurait un impact néfaste sur le risque de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire tout ce qui va être hypertension, AVC, infarctus, et également diabète qui peut être impacté. Alors pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe, les auteurs de cette étude ont exposé un groupe d'adultes sains à une lumière faible durant une nuit, puis à une lumière modérée durant la nuit suivante. Et il y a un groupe un peu contrôle qui était en parallèle pour qu'on puisse faire des comparaisons entre les deux groupes, bien sûr. Une plus grande résistance à l'insuline a été remarquée après la nuit dans la pièce éclairée en comparaison avec la nuit dans la pièce sombre. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui régule le taux de sucre dans le sang. Et une plus grande résistance à l'insuline, ça signifie que l'organisme a besoin de plus d'insuline pour réguler son taux de sucre dans le sang. Et à terme, cela peut entraîner un dysfonctionnement du pancréas et la survenance d'un diabète de type 2. Un rythme cardiaque plus soutenu et plus variable a été observé chez ceux qui ne dormaient pas dans le noir également. Et donc, il est connu qu'un rythme cardiaque plus élevé, ça peut représenter un facteur de risque cardiovasculaire également. Néanmoins, cette étude ne se base que sur 20 participants et sur un laps de temps très court, parce qu'on est sur 2 nuits seulement. Donc, il faut évidemment des études complémentaires pour essayer de confirmer ces premières observations. En tout cas, c'est des premières observations assez intéressantes, parce que déjà, on a pu identifier certaines choses. Et dans cette expérience, on est sur des participants qui ont été exposés à une lumière plutôt modérée. Donc, il faudrait essayer de voir avec une luminosité genre veilleuse qu'on aurait au sol. Parce que là, c'était des lumières qui venaient du plafond. Donc, en fait, il faudrait refaire l'expérience dans d'autres conditions pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est sur l'impact sur notre santé. Et en fait, on se rend compte, mais on le savait déjà, que laisser la lumière allumée dans la chambre à coucher n'est ni bon pour la santé, ni bon pour la qualité du sommeil aussi. Et donc, avoir une petite veilleuse ou même dormir dans le noir, c'est peut-être un peu mieux. En tout cas, c'est les premiers éléments, les premières conclusions de cette étude qui méritera bien sûr d'être poursuivie. On verra un petit peu par la suite ce qu'il en est également de cette étude. Allez, on écoute Wet Leg sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. On va continuer comme ça à feuilleter l'actualité scientifique. Bienvenue sur Graphite, vous êtes tellement bien.
On the chaise longue.
chaise longue, c'était Wet Leg sur l'antenne de Graphite. Alors, quel est le meilleur moment de la journée? On va toujours parler un petit peu de santé et de sport. Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du sport? Il y a une étude qui nous apporte une réponse. Les bienfaits du sport, on le sait, ne sont plus à prouver, tant sur le système cardiovasculaire que respiratoire ou le système osseux, la santé mentale, la santé cognitive. Bref, on est OK, il faut faire du sport. Mais quel est le meilleur moment de la journée pour pratiquer et profiter au maximum de tous ces bénéfices? Eh bien, une équipe de Californie qui s'est penchée sur la question et qui a publié un article dans la revue Cell Metabolism. Il était déjà connu que la sensibilité des tissus à l'exercice physique était variable au cours de la journée parce que les tissus de notre organisme et les cellules qui composent ces tissus sont calés sur un rythme de 24 heures, le fameux rythme circadien. Et donc, du coup, l'horloge interne de notre corps contrôle les états de veille et de sommeil, régule l'appétit, favorise les apprentissages à certains moments de la journée. Par conséquent, l'exercice physique entraîne une réponse de nos tissus et la production de molécules différentes selon le moment de la journée où le sport est pratiqué. Donc les auteurs de cette étude ont souhaité mieux comprendre les mécanismes un petit peu qui sont mis en place, comment les tissus répondent de façon collective et de façon propre à l'activité physique. Et donc pour cela, ils ont travaillé sur des souris. Les auteurs ont mesuré chez les souris la concentration de plusieurs centaines de molécules de signalisation produites par les tissus. Et du coup, des échantillons ont été prélevés dans différents tissus, les muscles, le foie, l'hypothalamus, le cœur, également différents tissus de peau. Et les mesures ont été réalisées juste après un exercice physique pratiqué le soir ou le matin. Et le sport pratiqué était la course sur un tapis roulant pendant une heure. Pauvres souris, on les fait courir sur des tapis roulants pendant une heure. On voit ce que ça donne. Les auteurs ont réalisé une sorte d'atlas du métabolisme de l'activité physique et il s'avère que chaque organe produit des métabolites suite à l'activité physique de manière différente selon le moment de la journée. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces métabolites permettent aux organes de communiquer entre eux et d'aligner un petit peu leurs horloges internes. Et la production de certains métabolites est plus intéressante que d'autres en matière de santé. Et faire du sport le matin permet de brûler les sucres et les graisses, tandis que faire du sport le soir permet une augmentation de la dépense énergétique. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que pratiquer une activité physique dès le réveil peut aider à réguler et à recadrer l'horloge interne chez les souris présentant des troubles du sommeil. Donc vous avez des troubles du sommeil, et bien dès le réveil, hop, vous allez courir, enfin en tout cas vous allez faire du sport et ça pourrait réguler les troubles du sommeil. Alors attention, les auteurs eux-mêmes reconnaissent certaines limites à cette étude, parce que évidemment on est chez des souris, on n'a pas pris en compte l'âge, le sexe, la présence de maladies qui pourraient aussi avoir un impact chez ces souris, donc il faut prendre beaucoup de recul avec cette étude, mais en tout cas, ça donne quelques pistes là encore intéressantes qu'il va falloir approfondir par la suite, bien sûr. Ah, ces pauvres souris. Je sais pas, je trouve ça assez fascinant. Ça va être intéressant, je sais pas s'il existe des vidéos, j'ai pas vérifié s'il existait des vidéos de ces recherches, mais ce serait des choses à voir, essayer de retrouver. Qu'est-ce qu'on va évoquer? Allez, tenez, on va évoquer cette mesure qui a été faite par l'Agence internationale de l'énergie, qui a donc annoncé récemment que nos émissions en dioxyde de carbone, le fameux CO2, ont atteint un niveau sans précédent de 36 milliards de tonnes pour l'année dernière. L'année 2021, c'est une augmentation historique par rapport à 2020. Bon, ça compense largement le déclin qui avait été induit par la crise sanitaire en 2020, bien évidemment, mais il n'empêche que l'humanité n'a jamais émis autant de CO2 qu'en 2021. Selon les experts de l'Agence internationale de l'énergie, ces mauvais chiffres s'expliquent par un rebond de l'économie d'une part, par des conditions météorologiques défavorables d'autre part, et par la flambée des prix du gaz fossile, qui a eu pour effet immédiat d'augmenter les consommations de charbon, un charbon dont la combustion émet plus de deux fois de CO2 que celle du gaz. Sur un plan plus strictement géographique, c'est notamment la Chine qui tient une part importante dans cette hausse des émissions et à elle seule et avec près de 12 milliards de tonnes. 12 milliards sur les 36, c'est-à-dire que ça fait à peu près un tiers des émissions mondiales de CO2 viennent uniquement d'un pays qui est la Chine. À la faveur d'une économie qui a poursuivi sa croissance malgré la pandémie de la Covid-19 et d'une demande d'électricité qui a augmenté comme jamais auparavant au cours de l'année 2021, une électricité qui est majoritairement produite par des centrales à charbon. Donc du coup, on explique un petit peu toutes ces mauvais résultats. La bonne nouvelle, elle nous vient tout de même des énergies renouvelables et du nucléaire qui, dans le monde, ont produit plus d'électricité que le charbon. C'est aussi une première. Et la production renouvelable a même atteint un record de 8000 TWh. C'est beaucoup plus que l'année précédente. Et même en Chine, jamais auparavant une progression aussi forte n'avait été enregistrée, notamment grâce au solaire et à l'éolien. L'hydraulique avait quand même souffert de la sécheresse et donc ça a été beaucoup plus compliqué au niveau de la production d'électricité par l'hydraulique. Mais en tout cas, solaire et éolien, ça prend aussi des proportions de plus en plus importantes et on est sur des chiffres assez intéressants. Donc voilà, on n'a jamais émis autant de CO2 l'année dernière, mais on a quand même une part assez importante de la production renouvelable qui augmente de façon assez importante et considérable. Et c'est peut-être tant mieux vu ce que l'on apprend semaine après semaine sur la dégradation du réchauffement climatique. Allez, on continue. Écoutez un peu de musique, ça nous fait du bien. Et puis on se retrouve toujours, parce qu'il y a encore pas mal d'articles que je dois évoquer avec vous. À tout de suite.
Your ears to
Kid Sébastien sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et le mardi entre 10h et 11h pour l'émission Biotine, émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur la bande FM, bien sûr, 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet en direct pendant la diffusion de l'émission ou alors en différé grâce au podcast, bien évidemment. Vous suivez toute l'actualité de Graphite sur la page Facebook, bien sûr, pour être au courant des événements qui sont coordonnés par votre radio préférée et curieuse, bien évidemment. Au niveau de l'actualité, on va aller un petit peu dans l'espace quand même, parce qu'en janvier 2031, c'est bientôt hein, quand même, faut pas se leurrer, ça va être vite là, la Station Spatiale Internationale sera désorbitée à l'aide de 3 vaisseaux cargo russes qui abaisseront son altitude jusqu'à son entrée dans l'atmosphère. La fin annoncée de la Station Spatiale Internationale ne signifie évidemment pas l'arrêt des activités humaines en orbite basse, bien au contraire, c'est en fait une nouvelle ère de la commercialisation et de l'utilisation de cette zone d'orbite basse qui s'annonce, avec plusieurs projets de stations commerciales et privées qui vont être dédiés principalement à la recherche scientifique, à la médecine, à la technologie et au tourisme aussi, bien évidemment. Alors si on se fie au plan de la NASA, la Station Spatiale Internationale sera remplacée par une ou plusieurs stations dont la NASA serait l'une des clientes. Elle n'a donc pas le projet de construire elle-même un nouveau complexe orbital. Au contraire, elle souhaite poursuivre sa stratégie de commercialisation de l'orbite basse démarrée au début des années 2010, ce qui a permis l'émergence de services de transport privé de fret et d'équipage à destination de la station. Et depuis quelques années, la NASA travaille en visant à faciliter le développement de stations spatiales commerciales pour succéder à la Station Spatiale Internationale, afin de permettre la continuité de la présence d'astronautes américains en orbite basse. Elle a lancé le programme qui s'appelle CLD, qui, au terme duquel elle s'engage à devenir cliente d'une ou plusieurs stations spatiales opérées par des entreprises privées, pour un montant suffisamment attractif, dans l'idée de pouvoir un petit peu pérenniser l'activité de ces stations. Avec ce programme, la NASA estime qu'elle pourrait être en mesure d'économiser 1,3 milliard de dollars par an à partir de 2031 et même 1,8 milliard de dollars par an à compter de 2033. Alors dans le cadre donc de ce programme CLD, il y a 3 projets qui sont soutenus par la NASA. Il y a un projet Starlab qui est porté par un groupe d'entreprises. Et cette station Starlab d'une capacité de 4 personnes a la particularité qu'elle sera déployée lors de son unique lancement qui est prévu en 2027. Elle est conçue pour accueillir donc 4 astronautes et aura une puissance, un volume, une capacité de charge utile équivalent justement à la Station Spatiale Internationale actuelle. Et la NASA lui a octroyé un contrat de 160 millions de dollars. Deuxième projet, le projet Orbital Reef, qui est porté par un autre groupe d'entreprises et sa construction devrait débuter déjà débuté. Et donc, du coup, elle est conçue pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Et ce groupe d'entreprises a reçu un financement de 130 millions de dollars. Troisième projet, pour l'heure, pas de nom pour ce troisième projet. Il y a 2 entreprises qui ont reçu 125 millions de dollars. Et cette station utilisera principalement des modules dérivés du vaisseau cargo Cygnus, construit notamment par Thales. Côté européen, on ne reste pas les bras croisés. L'Agence spatiale européenne, qui ne dispose pas des mêmes ressources que la NASA, a tout de même lancé un appel à aider auprès des industriels européens pour défricher le terrain. Et donc l'Agence européenne, qui vient de commencer à définir une stratégie en orbite basse, devrait décider lors de son prochain conseil ministériel prévu en novembre prochain de financer des études de concept justement de stations spatiales sur la base de propositions d'industriels. Et ces études serviront à orienter le choix de l'Europe soit vers la réalisation de sa propre station européenne, donc, soit vers la participation à un des programmes américains privés, et dans ce cas comme la NASA, aller vers l'achat de services commerciaux orbitaux, bien évidemment. Donc on est vraiment dans le début d'une nouvelle ère, bien évidemment, pour ces stations orbitales, et ce qui nous permet justement de voir un petit peu l'avenir de la conquête spatiale, bien évidemment, au niveau des stations spatiales internationales. Allez, encore un petit titre et on se retrouve, on continue juste après pour développer l'actualité scientifique, bien évidemment. Zenzile avec No Dub to Cope sur l'antenne de Graphite. Alors, on va parler d'un sujet qu'on n'aborde jamais, c'est la littérature médiévale européenne, qui est largement connue à travers les aventures, bien sûr, du roi Arthur, des chevaliers, Merlin. Les histoires qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui incluent également des récits autour de Charlemagne, ainsi que des romans de chevalerie avec des personnages emblématiques, par exemple Beowulf. Il est pourtant certain que ces contes médiévaux ne sont pas les seuls à avoir été inventés au Moyen-Âge. Il y a de nombreuses œuvres de la littérature médiévale qui ont disparu en raison de plusieurs incendies dévastateurs de bibliothèques au cours du siècle dernier et de la destruction de manuscrits, ainsi qu'en raison de la réutilisation d'ouvrages. L'un des exemples d'une telle pratique, c'est la confection de la mitre d'un évêque à partir des restes d'un roman de chevalerie. Alors, ok, qu'en est-il donc de tous les contes qui sont aujourd'hui disparus? S'il est impossible de déterminer quelle était la teneur de ces récits, il y a une équipe de recherche qui a déterminé quelle a pu être la proportion de littérature médiévale européenne qui a été sauvegardée jusqu'à aujourd'hui. Et les résultats de cette étude ont été publiés dans la grande revue Science. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, la transmission des artefacts du passé jusqu'à la période actuelle constitue un problème récurrent pour les personnes qui étudient la littérature médiévale, mais également pour les archéologues et les paléontologues. Ce problème est connu sous le nom de biais du survivant et signifie que seule une fraction des éléments du passé est connue aujourd'hui. Donc cette vision tronquée peut par conséquent essayer d'entraîner une sous-estimation de la diversité de la production culturelle ou biologique dans les sociétés et les écosystèmes anciens. Et donc le biais du survivant, c'est un concept très bien connu en écologie actuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments aujourd'hui du passé, bien évidemment. Cette discipline s'intéresse notamment à la biodiversité et donc au nombre d'espèces différentes dans un écosystème. Or, il est impossible d'évaluer avec certitude le nombre d'espèces présentes dans un milieu, car certaines sont très rares et que d'autres sont extrêmement difficiles à observer. Et du coup, on essaye de corriger ce biais des espèces non observées par rapport à celles qui ont effectivement été répertoriées dans un milieu. Et donc, les auteurs de l'étude de littérature médiévale ont ainsi eu l'idée d'appliquer cette méthode à leurs propres données. Ils ont considéré que les œuvres étaient analogues à des espèces et que les différents manuscrits étaient comparables à un nombre d'observations. Et grâce à ce modèle, les auteurs ont pu déterminer que 9% des manuscrits européens du Moyen-Âge qui concernaient des histoires de chevalerie ou des récits héroïques ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc à peu près un conte médiéval européen sur 10 est connu aujourd'hui. Ils se sont par ailleurs intéressés aux œuvres anglaises, françaises, allemandes, néerlandaises, islandaises et irlandaises. Ils expliquent que les taux de perte littéraire les plus faibles sont observés en Irlande et en Islande par rapport aux œuvres provenant du continent. Ils expliquent cette tendance par le fait que le nombre de copies par œuvre littéraire était plus homogène dans ces îles par rapport au continent. Or, lorsque des éléments sont en proportion similaire, eh bien leur fragilité face aux aléas environnementaux et sociétaux est plus faible que pour des éléments très rares. Et donc si le lien entre écologie et littérature médiévale ouvre des portes jusqu'alors inconnues, il n'en demeure pas loin que 91% de la littérature médiévale de la chevalerie reste inconnue et le resterait peut-être pour l'éternité. On n'aura pas tout malheureusement, mais en tout cas c'est assez intéressant d'avoir une évaluation globale justement de cette littérature médiévale. C'est un sujet, à ma connaissance, qu'on n'avait jamais évoqué dans cette émission Biotime, mais c'est ça qui est intéressant, justement, avec cette actualité scientifique, c'est qu'on aborde, grâce à la science, plein de domaines, bien évidemment, assez disparates, assez variés, et c'est tout l'intérêt de cette émission. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. C'est la fin de cette émission, bientôt 13h. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotime sur l'antenne de Graphite. D'ici là, vous avez la possibilité de suivre toutes les émissions, soit en les écoutant sur le 94.9, soit en nous suivant sur graphite.net, bien évidemment. Merci de votre attention, bonne fin de journée à tous, à bientôt, au revoir.